Le plus étonnant, c'est qu'il ne s'appelait pas Jules. Son véritable prénom était Thomas. Et ma chère tante, ayant entendu dire que les gens de la campagne appelaient Thomas leur pot de chambre, avait décidé de l'appeler Jules, ce qui est encore beaucoup plus usité pour désigner le même objet. L'innocente créature, faute d'avoir fait son service militaire, l'ignorait. Et personne n'osa l'en informer, même pas Thomas Jules, qu'il aimait trop pour la contredire, surtout quand il avait raison. L'oncle Jules était né au milieu des vignes, dans ce roussillon doré où tant de gens roulent tant de barriques. Il avait laissé le vignoble à ses frères, et il était devenu l'intellectuel de la famille, car il avait fait son droit. Mais il était resté fièrement catalan, et sa langue roulait les airs comme un ruisseau roule des graviers. Je l'imitais pour faire rire mon frère Paul. Nous pensions en effet que l'accent provençal était le seul accent français véritable, puisque c'était celui de notre père, examinateur au certificat d'études, et que les airs de l'oncle Jules n'étaient que le signe extérieur d'une infirmité cachée. Mon père et lui faisaient une paire d'amis, quoique l'oncle Jules, plus vieux et plus riche, prit parfois des airs protecteurs. Il protestait de temps à autre contre la durée abusive des vacances scolaires. « J'admets, disait-il, que les enfants aient besoin d'un si long repos, mais pendant ce temps, on pourrait employer les instituteurs à autre chose. » « Eh oui, disait ironiquement mon père, ils pourraient aller remplacer pendant 2 mois les fonctionnaires de la préfecture, épuisés par leurs longues siestes et meurtris par leur rond de cuir. » Mais ces escarmouches amicales s'arrêtaient là, et jamais on n'abordait le grand sujet, sinon par des allusions discrètes. L'oncle Jules allait à la messe. Lorsque mon père apprit, par une confidence de tante Rose à ma mère, qu'il communiait 2 fois par mois, il en fut positivement consterné et déclara que c'était un comble. Ma mère alors le supplia d'admettre cet état de choses et de renoncer devant l'oncle à son petit répertoire de plaisanteries sur les curés, et en particulier à une chansonnette qui célébrait les exploits aéronautiques du vénérable père Dupanloup. Crois-tu qu'il se fâcherait vraiment? Je suis sûr qu'il ne remettrait plus les pieds chez nous et qu'il défendrait à ma sœur de me fréquenter. Mon père secoua tristement la tête, et soudain, d'une voix furieuse, il s'écria « Voilà, voilà, voilà l'intolérance de ces fanatiques. Est-ce que je l'empêche, moi, d'aller manger son Dieu tous les dimanches? Est-ce que je te défends de fréquenter ta sœur parce qu'elle est mariée à un homme qui croit que le créateur de l'univers descend en personne tous les dimanches dans 100 000 gobelets? Eh bien, je veux lui montrer ma largeur d'esprit. Je le ridiculiserai par mon libéralisme. Non, je ne lui parlerai pas de l'Inquisition, ni de Calas, ni de Jean Hus, ni de tant d'autres que l'Église envoya au bûcher. Je ne dirai rien des papes Borgia, ni de la papesse Jeanne. Et même s'il essaie de me prêcher les conceptions puériles d'une religion aussi enfantine que les contes de ma grand-mère, je lui répondrai poliment, et je me contenterai d'en rigoler doucement dans ma barbe. Mais il n'avait pas de barbe, et il ne rigolait pas du tout. »